Monsieur le ministre, bienvenue à Chibougamau.
Bonjour.
Aujourd'hui, c'est une des dernières étapes de cette grande tournée de consultation concernant le caribou forestier. Donc là, ça va, si je comprends bien, ça se finit demain dans le coin de Robertval.
Demain, Robertval, ça se termine. On va avoir fait l'ensemble des territoires où la problématique du caribou est reconnue, ou sans dire une problématique, où ce que la situation du caribou existe. Donc, pour nous, on termine. Hier, il y avait Mistissini. Aujourd'hui, c'était Chibougamau, Robertval, demain. Donc, ça va compléter le réseau des endroits, là.
Quel est le premier constat que vous faites, là, avec près de 80 % de cette tournée de compléter?
Oui. Bien, ce qu'on arrive comme message, premièrement, c'est un message de voir, moi, comme quand j'ai été élu puis que j'ai été nommé ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs, ce que je me suis aperçu dans les différents briefings qu'on m'a fait, c'est qu'on avait beaucoup de stratégies, et des stratégies souvent que j'appelle à la verticale. Donc, la stratégie forêt. Donc, la stratégie forêt qui est naturellement davantage pour les industriels. Et, mettons, par exemple, dans ce cas-ci, la stratégie caribou, donc le côté plus faunique. Donc, on se retrouve avec à la verticale, mais là, je me dis à un moment donné, si on veut arriver à quelque chose, ça prend un peu un mariage entre les deux pour avoir un vrai projet de société. Donc, c'est là-dessus que, présentement, j'ai orienté un petit peu la dynamique en disant, si on veut arriver à être capable de préserver le caribou, il faut aussi que l'industriel, les communautés autochtones, les groupes plus spécialisés travaillent ensemble pour voir quels sont les meilleurs moyens de solution qu'on peut trouver. Donc, c'est comme ça qu'on a abordé chacun des territoires avec les différents intervenants, puis on va voir un peu sur le terrain maintenant, au-delà de mes spécialistes au ministère, qui font un travail très remarquable, mais on fait un peu le travail d'aller voir qu'est-ce que le milieu veut nous parler, veut nous dire par rapport à la situation. Et c'est ce qu'on va chercher.
Jusqu'à maintenant, le milieu, ça ressemble à quoi? Bien sûr, les gens veulent protéger le caribou, mais on veut aussi également protéger nos emplois.
Oui. Tout dépend dans quel milieu on a été jusqu'à présent. Chacun des milieux a des particularités. Si je prends exemple le secteur de Chibougamau, qui nous intéresse plus parce qu'on est ici, bon, ce qu'on a entendu parler davantage, il faut prendre en considération la paix des braves. Donc, quand j'étais à Charlevoix, là, on ne m'a pas parlé de la paix des braves. Ce n'est pas un enjeu pour eux autres. Mais la paix des braves, c'est une entente qui existe, qui est canée, qui a été bâtie et qui fait effet que l'espèce qu'on a travaillé à protéger avec des territoires vraiment précis, c'était l'orignal. Donc là, lorsqu'on arrive avec une nouvelle espèce qu'on veut faire quelque chose, ça vient des fois en contradiction avec certaines ententes, dont dans ce cas-ci, la paix des braves. Donc, il faut s'assurer de voir est-ce qu'on est capable de travailler quelque chose en parallèle ou... Mais une chose est sûre, c'est qu'il nous reste toujours cette paix des braves-là qu'il faut respecter puis qu'il faut adapter en conséquence. Donc, ça, c'est une particularité à Chibougamau. L'autre élément qu'on a discuté aujourd'hui, la limite nordique. Donc, la limite nordique, elle a aussi un impact. Pourquoi? Est-ce qu'on a des données sur le caribou au-delà de la limite nordique? Oh, on a moins de données là-dessus. On a davantage travaillé des données sur l'endroit où le caribou est confronté à l'aspect forestier. Donc ça, c'est tous ces éléments-là qu'on s'adresse présentement pour voir un peu comment on va orienter notre futur dans nos prochaines décisions.
Alors, si on regarde jusqu'à maintenant, est-ce que vous croyez qu'on va réussir à trouver une entente pour satisfaire tout le monde?
Bien, soyons honnêtes. Tu sais, on est en politique, puis on le sait, là. Je pense pas qu'on va arriver avec une solution qui sera 100% conforme à tous les intervenants du territoire. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, on essaie de travailler avec les milieux puis qu'on ne veut pas faire une politique mur à mur québécoise, justement à cause des particularités, comme je vous disais tantôt, par rapport aux différentes ententes qui existent. Donc, on doit moduler cette stratégie-là selon les territoires et selon les données avec lesquelles on doit travailler dans chacun des territoires. Les populations de caribous isolés, comme à Val-d'Or, Charlevoix ou le caribou montagnard en Gaspésie, n'arrive pas à la même situation que le caribou à Chibougamau ou le caribou, exemple, sur la Côte-Nord. Donc, il faut penser à tous ces aspects-là.
Si on regarde, bon, les études se contredisent. Certaines personnes disent que le caribou est en train de progresser, d'autres disent qu'il baisse. Où est-ce qu'on va être capable de faire un certain milieu pour, justement, faire le point? Je pense que vous êtes en train de faire des études au moment où on se parle.
Exactement. Puis, le pire là-dedans, c'est que chacun des argumentaires est possiblement bon. Dans le sens que si on regarde dans le secteur de Manicouagan, oui, le caribou est prolifère, ça va bien au niveau de la harde de caribou. Mais oui, c'est vrai aussi qu'il existe d'autres endroits. On l'a vu à Charlevoix, exemple, on est passé de 126 à environ 60 têtes. Donc oui, il y a des problématiques ailleurs puis qu'il faut s'adresser puis voir un peu quels sont les moyens d'intervention qu'on peut penser faire. Mais à tous les niveaux dans ce projet-là, c'est toujours particulier. Comme exemple, une des actions qu'on peut faire, c'est d'éliminer des chemins forestiers, des chemins qu'on appelle multi-usages aujourd'hui, des anciens chemins forestiers. Par contre, vous avez d'autres interlocuteurs qui vont dire « Oui, mais le fait que vous avez fait un chemin à tel endroit, aujourd'hui, on est capable d'aller à tel lac pêcher, et ça, on ne voudrait pas que vous le fermiez, celui-là. » Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller voir dans le milieu qu'est-ce que le milieu est prêt à concéder. Puis l'ensemble des acteurs doivent nous informer par rapport à ça pour être capable de voir comment on est capable d'arriver à un juste milieu puis un juste compromis.
Est-ce qu'il va être possible, vous croyez, de synthétiser toutes les études, bon, évidemment, la tournée que vous faites, pour ensuite être capable de bien informer les gens, pour donner leur juste à la population, parce que on vous le disiez il y a quelques instants, on est un peu mêlés, toutes les études disent peut-être une vérité, mais c'est la vérité de chacun. Est-ce que vous êtes capable de tout synthétiser ça pour qu'au moins, une fois pour toutes, les Québécois, puis l'industrie forestière, entre autres, soient capables de se faire, je veux dire, une tête là-dessus?
Bien, c'est une des raisons pourquoi la stratégie va s'accoucher en 2022-2023. Parce qu'il y a certes, il y a des jalons qu'on doit poser d'ici là, et c'est important de faire ces actions-là avant d'arriver à dire voici ce qu'on va faire dans notre stratégie pour chacun des secteurs. Donc, on n'a pas le choix. Et c'est le travail du ministère, des spécialistes, de ramasser l'information puis d'être capable d'englober tout ça puis de regarder quelles sont les actions qu'on aura à poser. Toujours en continuant l'information à divulguer aux partenaires, aux différents acteurs sur le terrain, ça, c'est une des prérogatives majeures à respecter dans cette démarche-là.
Bon, certains disent que c'est urgent, il faut faire vite. Là, vous me disiez tout à l'heure, on termine demain, on va penser à ça durant l'été, on va analyser tout ça. On peut s'attendre à des développements, là, dans quel horizon?
Ce qu'il faut toujours faire attention avec une stratégie quand on dit 2022-2023, ça ne veut pas dire qu'en 2019 à 2022-2023, il ne se fera pas rien. Il y a des jalons qui peuvent se poser. On peut intervenir davantage sur la prédation. On peut continuer à faire d'autres actions tangible pour s'assurer que la harde puisse résister. Tous ces éléments-là peuvent se faire au fil du temps. Ce qui est intéressant, c'est que dans nos derniers crédits budgétaires, le gouvernement nous a octroyé 61,5 millions pour les 4 prochaines années pour justement pallier à des actions qu'on peut poser avant d'arriver à la stratégie 2022-2023. Donc oui, il y a des actions qui peuvent se faire pour protéger certains secteurs au niveau que le caribou est impacté.
Je veux qu'on parle un petit peu de Stornoway dans la région. Vous êtes le ministre responsable du Nord du Québec, une entreprise importante. C'était un fleuron du fameux plan Nord à un certain moment donné. Là, la situation est un petit peu plus difficile. Qu'est-ce qu'en pense le responsable du Nord du Québec?
Bien, le responsable du Nord du Québec, veut pas, ça fait plusieurs années que je gravite dans le domaine économique, avant même d'être en politique active. Ce qu'il faut comprendre avec Stornoway, hein, c'est des fois, on veut développer de nouvelles mines, mais aussi de nouveaux champs d'action. Dans le domaine du diamant, je pense que c'était un pari présentement, quand on a débuté, qui était audacieux, mais aussi un pari risqué. Parce qu'on ne connaissait, on est des producteurs d'or au Québec, on connaît bien la nomenclature des mines d'or, des mines de zinc, des mines de cuivre, des mines de nickel. Mais dans le cas du diamant, peut-être qu'on avait un petit peu de problématique à bien comprendre l'environnement de développement d'une mine de diamant. Et naturellement, ensuite de ça, il arrive toute l'histoire des coûts de production, les coûts du diamant sur le marché. Ça, c'est le phénomène du domaine minier, hein? La hausse des prix, la baisse des prix. Et présentement, c'est de valeur, mais Stornoway vit un peu la problématique de tous ces éléments-là qu'on additionne l'un ensemble. Il faut naturellement espérer que le prix du diamant remonte. Je sais que M. Godin, que je connais bien, fait un travail de tous les instants pour essayer de relever la barque. Puis je sais aussi que le gouvernement lui a demandé de faire telles actions pour maximiser, entre autres, le nombre d'emplois sur le terrain, etc., au minimum des possibilités que la mine peut avoir besoin pour continuer à exploiter. Donc, tous ces éléments-là mis ensemble, on ose espérer qu'il y aura un accomplissement final qui va être positif. C'est sûr que pour le commun des mortels, quand on voit le gouvernement impliquer beaucoup de sous dans une mine comme Stornoway, on est facile à critiquer quand le projet ne marche pas. Mais je pense qu'à l'époque, lorsqu'on a débuté le projet, les évaluations, tout était viable à un coût de produit bien fixé. Là, le problème, c'est que le prix a descendu beaucoup plus bas que qu'est-ce qu'on aurait pu penser. Mais je ne pense pas que c'est la fin de Stornoway. Je pense que Stornoway a encore un bel avenir, mais ça se peut que, exemple, l'équipe de M. Fitzgibbon, en partenariat avec les gens de Stornoway, essaye de trouver peut-être d'autres capitaux pour être capable de donner un coup de main avec des spécialistes des domaines des mines d'argent, des mines de diamants, je veux dire, excusez, qui pourraient naturellement donner un coup de main à Stornoway pour le futur.